Mes amis, j'espère que à la fin de cette journée, vous avez autant de joie les uns avec les autres que j'en ai aussi dans mon cœur avec vous. Je suis vraiment heureux de cette fin de semaine et de voir l'intérêt que vous avez porté à l'Écriture sainte. Et je loue le Seigneur de nous avoir donné une fois encore en cette année, de pouvoir avoir une retraite semblable qui est axée sur la parole. Et ce qui me réconforte, c'est de penser que vous allez repartir avec la parole. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on a considéré, vous pouvez le retrouver. Ce n'est pas même les cassettes qui sont là, qui peuvent vous le rappeler, mais vous avez la parole. Et votre enregistreuse dans votre cœur. Hein? Et le Saint-Esprit est aussi votre mémoire. Dieu notre Père, nous voulons te demander que tu nous donnes encore quelques instants de bénédiction, de rafraîchissement. Nous comptons sur toi, sur ta grâce, qui seule peut opérer dans nos cœurs. Donne-nous d'être cachés en toi, et que seul ce que tu as à nous dire puisse sortir ce soir de nos lèvres, que nous soyons un canal purifié, utile au Maître que nous adorons. Amen. Bien, dans cette soirée de samedi 26 novembre, nous poursuivons notre thème, les caractères d'un vrai réveil spirituel, et ce troisième volet, les murailles sur le remplacement. Et ce que nous vous avions demandé de lire ce soir, c'était les chapitres 5, 6 et 7. Y avez-vous fait des découvertes? J'en suis bien sûr. Cet après-midi, on a terminé avec le chapitre 4, et dans ce chapitre 4, nous avons vu quels obstacles venant du dehors, Néhémie et les constructeurs de la muraille ont rencontré les obstacles qui venaient du dehors, hein, les ennemis du dehors. Mais avec le chapitre 5, vous aurez remarqué qu'il y a des obstacles qui viennent du dedans, hein, de l'intérieur. On n'a pas seulement des ennemis qui viennent du dehors, mais nous avons aussi des faiblesses, des manquements qui viennent de nos propres cœurs, de l'intérieur, et c'est quelque chose de très pénible. Dans ce chapitre 5, vous avez entendu le mécontentement du peuple pendant la construction de la muraille. Ils construisaient la muraille, mais ils avaient de grandes épreuves et ils subissaient des injustices de la part de qui ? De leurs frères. Il y avait les ennemis du dehors, les Arabes, n'est-ce pas ? Et puis, il y avait les ennemis, alors, du dedans, c'est-à-dire, quand on n'a pas jugé nos tendances personnelles, on fait souffrir les autres. Et c'est les obstacles du dedans. Et vous avez remarqué, il y en avait qui disaient, je pense que vous avez pu voir trois fois qu'il est dit cela dans le chapitre 5. Il y en avait qui disaient. Donc, il y avait des murmures. Et cela me fait penser à ce qui se passait dans l'Église primitive. On voit dans l'Église primitive des choses merveilleuses dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait eu un partage des biens, ceux qui avaient des propriétés les vendaient, on apportait le prix aux pieds des apôtres et on distribuait selon les biens selon que chacun pouvait en avoir besoin. Et pourtant, au chapitre 6, au milieu de ces bénédictions que nous voyons dans l'Église primitive, il y a pourtant des murmures qui s'élèvent parmi les veuves. Les veuves qui n'étaient pas nées en Israël, mais qui étaient pourtant juives, mais qui venaient de l'étranger, qui habitaient maintenant Jérusalem, elles étaient négligées. Il y avait un peu de racisme dans cette église primitive. Vous voyez au chapitre 6 des Actes, en ces jours-là, le nombre des disciples se multipliant, parce que c'est toujours quand les disciples se multiplient, quand il y a de la bénédiction, qu'il y a aussi des troubles. Et c'est bien pour cela que j'ai voulu que nous étudions les caractères d'un vrai réveil. Parce qu'on dit, il y a un réveil au Québec, c'est merveilleux. D'ici l'an 2000, nous aurons tant d'églises au Québec, d'églises évangéliques. Et faites attention avec tout cela. Les troubles aussi peuvent venir. Il s'éleva des murmures des hellénistes contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service journalier. Et c'est alors que les apôtres se réunissent et prennent le taureau par les cornes et qu'ils instituent quoi ? Le service des diacres. Parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas se donner entièrement à la prédication de la parole et s'occuper encore de ces conditions matérielles. Parce qu'on n'est pas désincarné. On a un corps, on a un estomac et il faut aussi s'en occuper. Et ceux qui ont été chargés de s'occuper de ce service, c'était pas les derniers venus. C'était tous des hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et parmi ces diacres, qui trouvez-vous ? Étienne, Philippe, le grand évangéliste de la Samarie, et d'autres encore. De sorte que vous voyez que les temps peuvent être différents, mais les besoins et le cœur de l'homme restent les mêmes. Il y eut un grand cri du peuple et de leurs femmes contre les Juifs, leurs frères. Ça, c'est les difficultés qui viennent de l'intérieur. Alors, vous voyez ce qu'on disait. Il y en avait qui disaient, nous, nos fils, nos filles, nous sommes nombreux et nous demandons du blé afin que nous mangions et que nous vivions. Ils avaient faim et ils étaient pourtant du peuple qui travaillait et ils avaient faim. Vous voyez aussi dans l'épître aux Corinthiens, au sujet des agapes fraternelles, il y avait aussi ces différences. Hein. Les uns avaient faim, puis les autres s'enivraient. Et c'est pourquoi on a séparé la Sainte Cène, le repas du Seigneur, de l'agape, parce qu'il y avait des abus. Et puis, une deuxième fois, il y en avait qui disaient, verset 3, nous avons dû engager nos champs et nos vignes et nos maisons pour nous procurer du blé dans la disette. Alors, ils étaient malheureux. Un troisième, il y en avait qui disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi, parce qu'il fallait encore qu'il paye au roi un tribut, et tous devaient le payer. Alors, comme ils n'avaient rien, qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Emprunter. Et à qui est-ce qu'ils empruntaient ? À leurs frères. Et qu'est-ce que leurs frères demandaient ? De l'intérêt. Donc, on n'avait pas lu l'Écriture. Hein. Parce que, si vous lisez, vous voyez comment on s'éloigne de l'Écriture. Il y avait des textes précis dans la loi de Moïse qui montrait que si l'on était dans une fâcheuse position et qu'on devait emprunter en tant que Israélite à nos frères, il ne fallait pas qu'on demande un intérêt. Vous avez ça dans le chapitre 22 de l'Exode. Si tu prêtes de l'argent à mon peuple au pauvre qui est avec toi, tu ne seras pas avec lui comme un usurier. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. Et si tu prends en gage les vêtements de ton prochain, tu les lui rendras avant que le soleil soit couché. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a froid. Et il fait très froid, vous savez, au coucher du soleil, dans ces pays-là, où je suis allé souvent. Car c'est sa seule couverture, son vêtement pour sa peau. Vous voyez que le Seigneur s'occupe de notre peau. C'est quelque chose de merveilleux de penser que c'est écrit dans la parole. Et comment nous avons affaire ? Dans quoi coucherait-il ? Il s'occupe de vos couvertures. Il arrivera que quand il criera à moi, je l'écouterai, car je suis miséricordieux. Voilà notre Dieu, voilà celui que nous connaissons et qui est notre Père et qui sait prendre soin de nous. Mais ce n'était pas seulement dans l'Exode, le deuxième livre de Moïse. Vous trouvez une répétition de ces commandements avant qu'Israël n'entre en Canaan, avant, juste avant la mort de Moïse, dans le Deutéronome, au chapitre 23e. Verset 19e, « Tu ne prendras pas d'intérêt de ton frère, intérêt d'argent, intérêt de vivre, intérêt de quelque chose que ce soit qu'on prête à intérêt. Tu prendras un intérêt de l'étranger, mais de ton frère, tu ne prendras pas d'intérêt, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse en tout ce à quoi tu mets la main. » Alors, vous comprenez pourquoi souvent nous ne sommes pas bénis ? Parce que nous n'obéissons pas au commandement essentiel du Seigneur. Et il n'y a pas de bénédiction dans le pays où nous sommes pour le posséder. On n'est pas béni et on se demande pourquoi. Eh bien, retournons à la parole, scrutons nos voies, demandons-lui de nous enseigner et laissons-nous corriger. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous instruire, oui, pour nous redresser, afin de nous rendre propres à tout bonheur. Alors nous devons bien considérer nos voies, comme l'avait dit le prophète. Quel prophète ? Agé. Le prophète Agé. Alors, vous voyez, il y avait ces murmures, il y en a qui disaient, il y en a qui disaient, il y en a qui disaient. Alors, que fait Néhémie ? Il écoute ce que ces gens disaient pour contrôler si c'est vrai ou si c'est faux. Et il se rend compte que pendant leur propre travail, ils étaient dans la nécessité. Et ça allait même loin, verset 5. Verset 4, « Nous avons emprunté de l'argent sur nos champs, nos vignes, pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos fils comme leurs fils. Et voici, nous réduisons nos fils et nos filles à la servitude, et parmi nos filles, il y en a qui sont déjà asservis, et il n'est pas au pouvoir de nos mains de les racheter. » Vous rendez-vous compte, ils devaient, au fond, donner leurs enfants comme esclaves, comme garantie pour leur prêt. Car nos champs et nos vignes sont à d'autres. Alors, quand Néhémie entend ces choses, il fut très irrité lorsque j'entendis leur cri. Parce que, vous voyez, lui connaît quand même l'Écriture, et il sait que Dieu a dit, « Quand ils crieront à moi, je les entendrai. » Il entend leur cri, et ses paroles. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il consulte les autres pour savoir ce qu'ils pensent ? Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Il connaît la volonté de Dieu, comprenez-vous ? Et c'est cela que je trouve très beau. Je ne sais pas comment vous avez dans votre traduction. Et mon cœur se consulta sur cela. Comment ? Je résolus, oui, mais il a pris cette décision lui-même. Mais littéralement, dans Darby, qui est le texte le plus littéral, mon cœur se consulta. Il a un petit entretien avec lui-même. il rentre lui-même, il descend lui-même dans les profondeurs de Dieu et il sait ce qu'il a à faire. C'est tout à fait inutile de demander au Dieu qu'est-ce que tu penses de cela. On sait, quand la loi est au-dedans de nos entrailles, eh bien il n'y a qu'à descendre là et on sait ce que l'on a à faire. Cessons d'implorer le Seigneur pour qu'il nous éclaire sur sa volonté. Si tu n'aides pas ton frère, si tu vois ton frère dans le besoin et que tu ne l'aides pas, eh bien, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Qui dit cela? C'est l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 3e. Il y a des choses que nous savons et nous ne devons pas fermer nos entrailles. Vous voyez au verset 17 du chapitre 3 de Jean, celui de la première épître de Jean, celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et c'est là que vous voyez combien nos œuvres doivent être vraiment examinées. Tous ces gens, toute la foule que nous avons vue depuis le chapitre 3, ils ont travaillé à l'œuvre. Il y en a qui ont fait beaucoup pour l'œuvre extérieurement, mais intérieurement, ils ne marchaient pas droit selon le Seigneur, parce qu'ils avaient à côté d'eux des frères qui étaient dans le besoin et ils ne pourvoyaient pas à leurs besoins, alors que eux, ceux qui étaient riches, avaient plus qu'assez. Alors, Néhémie leur dit, vous exigez de l'intérêt chacun de son frère, point d'exclamation, et je leur opposais une grande congrégation, et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères les Juifs qui avaient été vendus aux nations, et vous voulez vous-même vendre vos frères? Ils ont eu des expériences extraordinaires de rachat, et puis maintenant, à Jérusalem même, ils veulent vendre leurs frères. Et c'est à nous qu'ils se vendraient. Alors, devant cette exhortation, heureusement, ils se turent, parce qu'ils ont peut-être encore une conscience, et ils ne trouvèrent rien à dire. Quand on a tort, on doit l'admettre. Je me suis trompé, j'ai été dur, etc. On doit le reconnaître. Et, ne trouvant rien à dire, eh bien, Néhémie leur dit, ce que vous faites n'est pas bien. Vous pouvez souligner ce verset. Il faut que nous acceptions qu'il y a des choses que nous avons pu faire ou que nous faisons qui ne sont pas bien. Même quand on est au Seigneur. Ce que vous faites n'est pas bien. Et vous voyez, qui est-ce qui nous corrige? C'est la parole. C'est toujours en revenant à la parole que nous sommes corrigés. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans son testament spirituel, écrivant à son enfant dans la foi Timothée, lui dit, prêche, quoi? La parole. Insiste en temps et hors de temps, en toute occasion. Ce que nous avons à vous prêcher, ce n'est pas nous-mêmes, c'est la parole. Mais ce ne sont pas nos idées, mais ce que dit la parole. Et nous en avons besoin. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Vous voyez que la crainte de Dieu, si on marche dans la crainte de Dieu, eh bien on se souvient de notre prochain. Pour n'être pas dans l'opprobre parmi les nations dont qui nous sont ennemis. Moi aussi, mes frères et mes jeunes hommes. Vous voyez, alors là, il faut qu'on ait un témoignage. Pour qu'on ait une autorité pour parler aux autres, il faut qu'on soit nous-mêmes conséquents. Comprenez-vous? Et justement, Néhémie est un homme qui est conséquent. Il a une autorité, pour quelle raison? Parce qu'il vit ce qu'il dit. On ne pouvait pas lui reprocher quelque chose de ce côté-là. Comme ce fut le cas pour Moïse, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul, et bien d'autres encore. Ils prêchaient par leur exemple. moi aussi, mes frères, c'est-à-dire ceux qui l'entouraient, qui travaillaient avec lui, et mes jeunes hommes, vous voyez qu'il y a des jeunes qui nous regardent, et nous voudrions être un exemple pour eux, nous pourrions exiger d'eux comme intérêt de l'argent et du blé. C'est ce que Paul nous dit aussi. Il aurait eu le droit de demander aux assemblées des dons et des secours. Hein. Vous avez cela dans le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, mais il ne l'a pas fait. Il ne leur réclame rien, au contraire. Alors, laissons, je vous prie, cette usure. Rendez-leur aujourd'hui même. Donc, ce n'est pas plus tard. Quand on a compris quelque chose, qu'est-ce que l'on doit faire ? De le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de demain pour nous. Quand le Seigneur nous a parlé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On a fait une fois un camp, Mahanaïm, vous vous souvenez, peut-être certains, sur l'aujourd'hui de Dieu. Et on a pris les aujourd'hui à travers toute l'Écriture. Et il y en a, et spécialement dans l'Évangile de Luc, comme aussi dans l'Épître aux Hébreux. Mais à travers toute la Bible, vous retrouvez aujourd'hui. Rendez-leur, aujourd'hui même, je vous prie, leur champ, leur vigne, leurs oliviers, leur maison. Oh, mais dis donc. Mais quand on s'est laissé aller, eh bien, il y a des réparations à faire. Et le centième de l'argent et du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Vous voyez comment on peut devenir avare, hein, attaché à l'argent. Ils n'en avaient pas besoin de cet argent, mais ils amassaient pour eux-mêmes. Alors rendez cela ce que vous avez demandé comme intérêt. Et alors, c'est quand même beau parce que tout à coup, quand l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il dispose les cœurs. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont d'accord. Ils disent, nous les rendrons. Donc, leur conscience a été touchée par la parole de Néhémie. Et nous sommes heureux que Néhémie ait pu se rendre compte de cela. Nous les rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ainsi comme tu l'as dit. C'est beau. Comme tu l'as dit. Voilà un petit encouragement dans un ministère. Parce que des fois, on en a peut-être aussi besoin parce que c'est des fois difficile. On prêche souvent et puis rien ne se passe. Et j'appelais les sacrificateurs et je les fis jurer de faire selon cette parole. Hein. Il faut qu'ils soient engagés. Et vous comprenez bien pourquoi il fait jurer les sacrificateurs. Parce qu'il y en a un, le souverain sacrificateur, qui ne marche pas droit. C'est lequel ? Eliasib, n'est-ce pas ? Alors, il faut qu'il aille jusqu'au bout, lui aussi. Je secouai aussi le pan de ma robe, et je dis, que Dieu secoue ainsi de sa maison et du fruit de son labeur, quiconque n'accomplira pas ses paroles, et qu'il soit ainsi secoué et avide. Vous savez, Néhémie, hein, il n'y va pas de main morte. Comme si vous arrivez à lire le chapitre 13, vous voyez qu'il a même battu certaines personnes et qu'il leur a arraché les poils de la barbe. Ben, il est exaspéré en voyant certaines choses. Jésus aussi a fait une fois un fouet de corde pour ceux qui trafiquaient avec les choses sainte, souvenez-vous de cela. Mais ne dites pas, eh bien, moi je prie comme Néhémie ou comme le Seigneur. Et ne pensez pas que toutes vos colères sont des saintes colères. Moi, comme je me mets en colère, c'est une sainte colère. Attention, attention. Hein? Parce que la chair, nous savons bien comment elle peut se fâcher. Gardons-nous de prétendre que nous avons des saintes colères. Oui, la vraie colère, c'est la réaction du bien en présence du mal. C'est ça la colère. La réaction du bien en présence du mal. Et toute la congrégation dit Amen. une fois, ils sont d'accord. Et vous voyez bien, quand on doit dire Amen, hein, alors s'ils disent Amen, c'est qu'ils disent oui Seigneur, nous sommes d'accord. Et au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand c'est l'Esprit de Dieu, au lieu de dire nous avons fait le sacrifice de rendre ce à quoi nous avions soi-disant droit, ils louèrent l'Éternel. Et c'est la puissance de la louange. Et le peuple fit selon cette parole. Si les principaux montrent l'exemple, c'est tout le peuple qui va suivre. Alors, dès le jour aussi où je fus établi leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, vous voyez bien que c'était 12 ans, hein, comme nous l'avons dit, ni moi, ni mes frères, nous n'avons mangé le pain du gouverneur. Ils auraient eu droit, hein, puisqu'il était gouverneur. Il avait droit à manger le pain du gouverneur. Mais ni lui, ni ses frères n'avaient fait cela. Mais les gouverneurs précédents, c'est pas parce que nos prédécesseurs ont fait cela que nous devons les imiter. Il nous faut avoir une relation directe et personnelle avec le Seigneur, et nous n'avons pas à suivre l'exemple de certains autres gouverneurs. Nous devons avoir une vie droite avec le Seigneur et les convictions. Nous n'imposons pas aux autres gouverneurs, mais ce que le Seigneur nous a montré pour nous, nous le mettons en pratique. Mais les gouverneurs précédents qui avaient été avant moi avaient été à charge au peuple. Alors je me dis, mais puisque les autres ont été à charge au peuple, moi aussi je peux être à charge au peuple. Voilà comment on peut raisonner. Mais peut-être que le Seigneur nous a montré autre chose. Et ils avaient pris d'eux du pain, du vin et de plus 40 cycles d'argent. Le jeune homme aussi dominait sur le peuple. Parce que c'est là, quand nous ne montrons pas nous-mêmes l'exemple, eh bien, les autres suivent. Mais moi, alors vous direz, mais il se met en avant. Non, mais parce que c'est vrai ça. Et l'apôtre Paul aussi, à un certain moment, il doit parler de lui. Il dit, mais je parle comme un insensé. Mais on l'accusait de certaines choses. Et alors, si vous lisez le chapitre 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, vous verrez qu'entre Paul et Néhémie, il y a une très grande ressemblance. Mais moi, je n'ai pas fait ainsi. À cause de quoi? La crainte de Dieu. Vous voyez, c'est la crainte de Dieu qui doit nous guider. Pas la crainte des hommes, hein, la crainte de Dieu. Et j'ai aussi tenu ferme dans ce travail de la muraille, et nous n'avons acheté aucun champ. Et tous mes jeunes hommes étaient rassemblés là pour l'ouvrage. C'était pas le temps d'acheter, comme le dira l'apôtre Paul. J'avais aussi à ma table 150 juifs et chefs, outre ceux qui nous venaient du milieu des nations qui nous entouraient. Or, ce qui m'était apprêté pour un jour, c'était un bœuf, 6 moutons choisis. On m'a prêté aussi de la volaille, et tous les 10 jours, toutes sortes de vins en abondance. Donc, il ne se plaignait pas, hein, mais ce qu'il avait, il en faisait profiter les autres. Et avec cela, je n'ai point réclamé le pain du gouverneur, parce que le service pesait lourdement sur ce peuple. Quand on voit la charge du peuple, eh bien, il renonce à certains de ses droits. Et alors, à qui peut-il s'adresser tout à coup? Il prie de nouveau, hein. C'est le contact direct avec le Seigneur. Et c'est cela que j'aimerais que nous puissions tous comprendre. Dans notre vie quotidienne, quelles que soient nos circonstances, nous pouvons tout de suite invoquer le nom du Seigneur, puis lui dire, bien, si les hommes ne voient pas ce qui se passe, toi, tu le vois. souviens-toi. Souviens-toi en bien pour moi, ô mon Dieu, de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Il n'y a que le Seigneur qui juge et qui sait ces choses. Mais vous pouvez maintenant comparer notre Néhémie, qui évidemment était peut-être très dans l'ombre jusqu'à maintenant pour certains parmi vous, avec un homme comme Moïse. Mais Néhémie, justement, suivait les exemples de ces hommes de Dieu, des prédécesseurs, qui avaient été chefs du peuple. Lui avait été nommé gouverneur, mais il se souvenait que Moïse, lui aussi, avait dirigé tout le peuple. Et quand des jaloux comme Corée, Dathan et Abiram, dans le chapitre 16 des Nombres, se sont dressés contre Moïse, alors, nous voyons Moïse au verset 15 du chapitre 16 des Nombres. Moïse entra dans une ardente colère parce qu'on l'accusait, on lui disait « Veux-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne monterons pas vers toi. » On s'opposait à Moïse. Moïse entra dans une ardente colère et il dit à l'Éternel, hein, que on est accusé faussement, à qui est-ce qu'on s'adresse ? À Dieu. On ne va pas demander une commission d'enquête sur la terre, non. On s'adresse à Dieu. N'ayez pas égard à leur offrande. Je n'ai pas pris d'eux-mêmes un quoi ? Un âne. Je n'ai pas même pris un âne. Et il était le gouverneur, il était celui qui conduisait Israël. Je n'ai pas même pris d'eux un âne, j'ai fait tort à aucun d'entre eux. Je n'ai pas fait tort à un seul d'entre eux. Voilà les hommes de Dieu. Un Moïse, et il a autorité pour parler parce qu'il est conséquent. Et puis l'apôtre Paul, le Moïse du Nouveau Testament, si j'ose l'appeler ainsi, eh bien, il a le même raisonnement. Je vous cite le chapitre 11 que j'ai déjà cité, où il dit ceci, au chapitre 11, verset 8. Je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres assemblées en recevant un salaire pour vous servir. Et me trouvant auprès de vous et dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont suppléé à mes besoins. Voyez-vous, d'une façon ou d'une autre, Dieu s'occupe de nous si on est à son service. Il a ses moyens à lui, mais alors nous voulons être conduits par lui. Et je me suis gardé de vous être à charge en quoi que ce soit, et je m'en garderai. Comme la vérité de Christ est en moi, cette gloire ne me sera pas interdite dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi ? Est-ce parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. Mais ce que j'ai fait, je le ferai encore pour retrancher l'occasion à ceux qui veulent une occasion, parce que vous avez toujours des gens qui veulent une occasion, afin que ce de quoi ils se glorifient, ils soient trouvés aussi tels que nous. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas chose étrange si ces ministres aussi se transforment en ministres de justice, desquels la fin sera selon leurs œuvres. Et puis il continue, mais quand il doit parler de lui, il dit « Je dois vous parler comme un insensé », parce qu'il n'aime pas parler de lui. Et il doit quand même dire certaines choses au sujet de ce qu'a été sa vie à cause de ceux qui se glorifiaient dans leur chair pour abaisser l'apôtre Paul. Alors nous arrivons maintenant au chapitre 6. Donc, il y a une délivrance au sujet de ces obstacles intérieurs, mais il a dû s'en occuper et être un exemple pour eux, et cela, ça nous enseigne aussi ce que nous devons faire. Et il arriva que lorsque Sambala et Tobija et Geshem, vous voyez, ils sont toujours ensemble, ces trois, l'arabe, et le reste de nos ennemis apprirent que j'avais bâti la muraille,
et qu'il n'y restait aucune brèche, c'est beau, hein, il ne restait plus aucune brèche. La muraille n'était pas très élevée, hein, on a vu que c'était la moitié de la hauteur, mais enfin, tout le pourtour était construit, reconstruit, quoique jusqu'à ce temps-là, je n'eusse pas posé les battants aux portes. Il y avait encore ces battants à mettre aux portes pour que ce soit achevé. Et alors, justement, les ennemis se rendent compte que bientôt, la ville sera vraiment protégée, que l'enceinte pourra être complètement fermée, les portes seront fermées, les verrous seront mis. Et alors, c'est le dernier moment, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, on le convoque, et rencontrons-nous ensemble dans les villages de la vallée de No. » C'est une certaine vallée. Ça ressemble drôlement à ces préparations d'attentat. On vous demande de vous rendre à un certain endroit, hein, pour une rencontre, soi-disant, parce qu'on a quelque chose d'important à vous dire. Mais il pensait à me faire du mal. On l'invite à une rencontre. Et c'est dans cette rencontre-là qu'on va le tuer. Alors, il faut faire attention. C'est piégé. Il pensait me faire du mal. Et je leur envoyais des messagers disant, « Je fais un grand travail, je ne puis descendre. Il faut savoir dire non. » Je dois écrire un chapitre là-dessus. Ma femme dit que je ne sais pas dire non. Bon. Pourquoi le travail cesserait-il pendant que je le quitterais? Non, il a une excuse là, tout à fait valable. Hein, il est en plein dans ses occupations, dans son travail. Pourquoi le travail cesserait-il pendant que je le quitterais et que je descendrais vers vous? Alors, ils m'envoyèrent dire la même chose, combien de fois? 4 fois, hein, ils sont persévérants. Et je leur répondis de la même manière. 4 fois, il a pu dire non. Et alors, Sambala m'envoya son serviteur, une 5e fois, de la même manière, avec une lettre ouverte à la main. Vous voyez comment ils essayent de la voir. Il a maintenant une lettre ouverte, tout le monde peut la lire. Et il y était écrit, « On entendit parmi les nations. » Ça ressemble tellement à ce que nous vivons encore aujourd'hui. C'est drôle. « On entendit parmi les nations, et Gashmi le dit, que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. C'est pour cela que tu bâtis la muraille. » Donc on lui prête des intentions de révolte. Et on veut expliquer que s'il a bâti la muraille, c'est en vue d'une révolte. Or, ce n'est pas du tout cela. C'est pour protéger les gens qui se trouvent dans la ville de tous les pillards qui pouvaient y entrer tant qu'il n'y avait pas de muraille. Et là, d'après ces dires, c'est toi qui deviendras le roi. C'est toujours ça. Au fond, vous êtes en train de travailler pour devenir leur... Tu es en train de travailler ainsi pour devenir le roi. Et même, tu as établi des prophètes pour proclamer et dire de toi, de Jérusalem. Parce que, vous savez, et c'est ça qui est terrible, les chrétiens peuvent mentir. J'ai ça en horreur. Des chrétiens qui mentent et qui peuvent écrire des lettres mensongères pour essayer de détruire le témoignage d'un frère. Et même tu as établi des prophètes pour proclamer et dire de toi dans Jérusalem, il y a un roi en Juda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Vous voyez là la menace. Hein? Eux vont aller dire à Artaxerxès, celui que tu as envoyé comme gouverneur est en train de comploter contre toi. Alors, c'est une menace qui n'est pas du tout voilée. Alors, on lui dit, puisqu'il va se passer cela et qu'on va dire cela de toi au roi, il faut que nous ayons une rencontre et qu'on s'arrange. Viens donc maintenant et tenons conseil ensemble. Sinon, nous allons dire ça au roi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire quand on nous convoque de cette manière-là? Est-ce qu'on va essayer de se défendre? Et je lui ai envoyé dire, aucune des choses dont tu parles n'a eu lieu. Nous avons une conscience, hein? Tout à fait à côté. Mais tu les inventes dans ton propre cœur. Car ils voulaient nous effrayer, disant, leurs mains se lasseront du travail, et il ne se fera pas. Maintenant, donc, fortifie mes mains. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelquement une prière. Vous voyez, tout à coup, il passe d'un sujet à l'autre, mais c'est une prière qui monte au Seigneur. C'est cela, prier sans cesse. Vous êtes dans un esprit de prière. Vous avez une difficulté, Seigneur, viens à mon aide. Quelle qu'elle soit, vous êtes dans votre cuisine en train de faire votre ménage, et il y a une difficulté qui se présente. Seigneur, tu es aussi dans la cuisine. Où que vous soyez, quelles que soient vos circonstances, vous devez prendre une décision. Et vous êtes un peu troublé. Il y a une épreuve là. Seigneur, aide-moi. Je me cache en toi. Je me réfugie en toi. Nous avons un Dieu sensible. Ne craignez pas de le déranger. Il n'est jamais dérangé. Alors, ayez toujours votre communication avec le ciel. C'est en direct que vous êtes avec le trône de la grâce. Pour que vous puissiez recevoir du secours au moment opportun. Mais comprenez-le, vous n'avez pas, quand vous avez une difficulté, à tout de suite demander à Pierre, Jacques ou Jean du secours. Vous avez la ligne directe avec votre Père des cieux. Comprenez-vous? C'est pas parce que nous avons besoin de nos frères, c'est vrai, mais ayez une vie personnelle avec le Seigneur. Devenez des hommes, comme le dit l'apôtre Paul. Soyez des hommes et ayez confiance en votre Dieu. Ne pensez pas que vous êtes passé par telle ou telle personne. Soyez directement avec le Seigneur. Vous le savez très bien, vous l'avez dit si souvent, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Pour qui est-ce que vous dites cela? Oui, mais on dit aux autres, hein, on dit cela à nos amis d'une autre église et qui pensent qu'ils doivent passer par les saints. Hein. Alors on leur dit, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous avons toujours besoin d'un saint médiateur. C'est vrai ou c'est faux? N'est-ce pas? J'essaye de parler à votre pure intelligence, parce que je ne vous prends pas pour des imbéciles. Je sais que vous réfléchissez, et que ces choses, si elles sont vraies, vous les recevez dans vos cœurs. Et c'est de cela que nous avons besoin. Des gens, des hommes qui ont réfléchi à certaines choses, qui voient clair, et qui se laissent corriger, parce que beaucoup ont été victimes d'un certain enseignement. Alors, il nous faut revenir, non pas à mes idées, à moi, j'en ai pas, mais à l'enseignement de la parole. Alors vous êtes fondés sur le roc. Et moi, je vins à la maison de Shemaïa, fils de Delaïa, fils de Mehetabel, et il s'était enfermé. Je ne sais pas s'il était malade, mais enfin, il s'était enfermé. Peut-être par peur, hein. Et il dit, c'était un homme de Dieu, soi-disant, ce Mehetabel, ce Shemaïa. Rencontrons-nous dans la maison de Dieu, c'est donc dans le temple, hein, à l'intérieur du temple, et fermons les portes du temple, car ils vont venir pour te tuer, et c'est de nuit qu'ils vont venir pour te tuer. Donc, ce Shemaïa a l'air d'avoir des nouvelles très précises au sujet d'un complot qui est préparé pour tuer qui? Néhémie. Alors, quelle est la réflexion de Néhémie? Et je dis, un homme comme moi fuirait-il? C'est beau. Pourquoi est-ce que j'aurais peur, moi? Un homme comme moi fuirait-il? Et qu'un homme comme moi, vous voyez, s'était piégé. Ce Shemaïa avait été payé pour piéger. Et c'était un religieux. C'est comme Judas. Et il faut faire attention. Un homme comme moi fuirait-il? Et quel homme comme moi entrerait dans le temple et vivrait? Parce que vous savez qu'un laïc ne pouvait pas entrer dans le temple. Vous vous souvenez d'un roi qui avait voulu entrer dans le temple pour sacrifier? C'était Ozias. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Lépreux. C'est fantastique, ça. Alors, vous voyez, toute la Bible nous enseigne. Et l'histoire de Ozias, elle était connue. Et alors, tu voudrais qu'il m'arrive la même chose? Et puis, vous savez, s'il était entré, c'était quelque chose d'interdit. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On l'aurait jugé, condamné et lapidé. C'était bien ça. Là, on aurait eu un prétexte pour le prendre. Et c'est ça. Et ce sont des gens religieux qui font ça. Alors, il y a des convictions. Il dit, je n'entrerai pas. Et je reconnus que, vous voyez, quand il a eu pris sa décision, qu'il n'entrerait pas, qu'est-ce qu'il apprend? Je reconnus que voici, ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé. Car il prononçait cette prophétie contre moi, et Tobija et Sambala le soudoyaient. Comprenez-vous? Vous voyez de quel piège nous sommes environnés et toutes les tentations que nous pouvons connaître. Et il faut savoir dire non et il faut être éclairé et ne pas agir si on n'a pas une conviction. C'est pour cela qu'il était payé, pour que j'eusse peur et que je fisse ainsi et péchasse. Et qu'ils eussent de quoi me faire un mauvais renom afin de me couvrir d'opprobre. Puis voilà, quand il a dit ça, c'est sa prière qui remonte au Seigneur. Hein. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sambala, selon ces œuvres qu'ils ont faites, et aussi de Noadia. Figurez-vous qu'il y avait une femme là-dedans. Et cette Noadia. Chercher la femme. Eh bien, oui, elle était prophétesse. C'est une des rares prophétesses de l'Ancien Testament. Eh bien, souviens-toi d'elle. Et du reste des prophètes qui voulaient m'effrayer. Vous savez, il y a eu beaucoup de faux prophètes dans ce retour de la captivité. Ils n'avaient rien appris et ils pouvaient être là pour effrayer. Mais enfin, quand Dieu a décidé quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Il poursuit son but, et finalement, ça y est. Et la muraille fut achevée. Malgré tout ce qu'on a essayé de faire pour détruire Néhémie, le travail est terminé. Et vous voyez, le 25e jour du mois de Lune, vous n'avez pas. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y en a qui ne croyaient pas, qui se sont pensés, il est fatigué. Pour le 10-52 jours. Mais on y arrive à nos 52 jours. Alors vous pouvez contrôler. J'aurais pu être fatigué, c'est vrai, j'aurais pu me tromper. J'aurais dû vous dire 52 semaines. Vous auriez avalé la pilule. Mais. C'est pas 52 semaines, c'est 52. Jour, ils ont travaillé, hein, et quand quelque chose doit se faire, s'accomplit en peu de temps. Dieu peut faire une œuvre en peu de temps, hein, en 52 jours. Et il arriva que lorsque tous les ennemis l'apprirent, toutes les nations qui nous environnaient crurent et furent abaissées à leurs propres dieux, et ils connurent que cette œuvre avait été faite par qui? Par Néhémie. Par notre Dieu. C'est ça qui est merveilleux, vous comprenez? Si ça s'est fait en 52 jours, tout le monde a dû admettre que c'était impossible que les hommes aient fait une telle chose. Donc Dieu était dans le coup. Et c'est cela que nous devons rechercher, que le Seigneur soit dans nos affaires. Hein. Et le monde, il sera étonné et il devra reconnaître que Dieu est là. Et si, comme il le dit dans les Corinthiens, dans nos églises, si vraiment on avait cette vie spirituelle avec le Seigneur, chacun individuellement, quand un homme inconverti entrerait dans le milieu, eh bien, les secrets de son cœur seraient dévoilés et il confesserait que Dieu est vraiment au milieu de lui. Il le confesserait que Dieu est vraiment au milieu de nous. Il éprouverait cette puissance. En ces jours-là aussi, les nobles de Juda envoyèrent des lettres sur lettres à Tobija, et celles de Tobija leur arrivaient. Vous voyez, il y avait des relations. Maintenant, quand Tobija a vu qu'il ne pouvait plus agir vraiment, qu'il ne pouvait rien arrêter, alors ils se sont mis à s'écrire. Des gens de Juda qui étaient quand même liés à lui, ils ont commencé à s'écrire, et car plusieurs en Juda lui avaient prêté serment, car il était gens de Sécania, fils d'Arak, et Jocanan, son fils, avait pris la fille de Meshulam, fils de Béréka. Vous voyez, c'était des mariages mixtes. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles, parce que qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a des relations familiales, n'est-ce pas? Et puis il y a des compromis, et puis on ne veut pas se faire de peine, etc. Alors, il disait aussi devant moi ses bonnes actions, donc des gens de Juda disaient les bonnes actions de Tobija, pour essayer d'amadouer notre cher Néhémie. Et il lui rapportait aussi mes paroles. Il faisait un genre de tri d'union. Et Tobija envoyait des lettres aussi pour m'effrayer. Alors, le chapitre 7, vous l'avez vu. Or, il arriva quand la muraille fut bâtie et que j'eus posé les battants des portes, qu'on établit dans leur emploi les portiers, les chantres, les lévites, et je chargeai du gouvernement de Jérusalem Hanani, mon frère, et Anania, chef du château fort, car c'était un homme fidèle, il craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Donc vous voyez, il y a une gradation dans la piété. Et je leur dis que les portes de Jérusalem ne devaient pas être ouvertes avant que le soleil ne fût chaud et qu'on devait fermer les battants des portes pendant qu'ils étaient là et mettre les barres et qu'on devait placer des gardes dans les habitants de Jérusalem, chacun à son poste, chacun devant sa maison. Donc nous devons être gardiens de notre propre maison. Or la ville était spacieuse et grande, mais le peuple peu nombreux au milieu d'elle. Et il n'y avait point de maison bâtie. Et mon Dieu me mit à cœur de rassembler les nobles et les chefs et le peuple pour les enregistrer par généalogie. Donc ils ont fait un recensement. Et vous voyez, il va administrer maintenant une ville qui est devenue une ville puisqu'il y a les murailles. Et j'ai trouvé le registre généalogique de ceux qui étaient montés au commencement, il y avait une centaine d'années, et j'ai trouvé écrit, voici ceux de la province qui remontèrent de la captivité, de ceux qui avaient été transportés, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transporté, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun à sa ville, ceux qui vinrent avec Zorobabel, Jésua, Néhémie, Azaria, Ramaya, Nakamani, Mardoché, Bichan, Mispéret, Bigvin, Néhum et Bana. Nombre des hommes. Et alors, vous trouvez là ce que nous avons déjà dit dans Esdras au chapitre 2. Alors, je ne le lis pas, c'est la même liste que vous trouvez dans Esdras au chapitre deuxième. On retrouve donc tous ces noms et au verset 61, vous avez aussi la mention de ceux qui n'ont pas pu trouver leur inscription généalogique et alors ils ne pouvaient pas s'approcher des choses saintes
jusqu'à ce qu'il y ait un sacrificateur avec les Urim et les Thummim. Et qui a été celui qui pouvait décider qui pouvait s'approcher et qui ne devait pas s'approcher? Ce souverain sacrificateur qu'on attendait, qui était-il? C'était Jésus. C'est Jésus qui est venu. C'est une annonce, au fond, de Jésus. On est proche, maintenant, de sa première venue, et c'est lui qui a choisi les siens. Et alors, vous voyez que toute la congrégation était réunie, chacun était à son poste, il y avait les chantres, il y avait les sacrificateurs, et il y avait les chefs des pères, et vous avez terminé avec le verset 73, et ils habitèrent là, dans leur ville. Nous ne voulons pas allonger, l'heure étant venue. Et je vous le dis, si vous le pouvez, eh bien, continuez votre lecture. Est-ce qu'il y a des questions?